Bonjour à tous. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, qui êtes là cet après-midi, c'est bien une parole de Dieu que je vais annoncer cet après-midi. Parce qu'avec John, je peux vous assurer qu'on ne s'est pas concerté. Il a apporté ma prédication. Je peux rien à dire. On va parler du pain de vie. Je vois pas comment il pouvait faire mieux pour les champs. Et il faut réfléchir. Quand ce genre de choses arrive, c'est pas une simple coïncidence pour rassurer soit le chantre, soit le prédicateur. C'est quand Dieu permet ce genre de choses, où on a cette assurance. Moi, j'ai l'assurance de Dieu par rapport au message que j'ai préparé, parce que, voilà, je suis plein d'assurance maintenant qu'on a chanté ces chants. Mais si Dieu agit de cette manière, parce que si j'ai ce message sur le cœur, et si John, sans me concerter, a eu à cœur ces chants, c'est parce que quelqu'un au milieu de nous en a besoin. C'est parce que quelqu'un au milieu de nous a besoin d'entendre ces paroles. Alors, j'aimerais introduire par une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et nous lisons les versets 50 et 51. Ne nous arrêtons pas à l'image du pain, parce qu'on va parler du pain. Regardons plus loin que l'image, parce que l'enseignement, il est derrière l'image. L'image ne sert pas simplement à faire joli, l'image sert à enseigner quelque chose de profond. Et Jésus parlait par des images pour cette raison. Il voulait qu'on puisse saisir du mieux possible ce qu'il voulait nous dire. Et là, j'aimerais insister là-dessus. Verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi aussi, je suis le pain vivant descendu du ciel. » Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus s'annonce comme étant le pain de vie, celui par lequel nous avons la vie. On va s'arrêter sur l'image du pain, bien sûr, pour indiquer à quel point c'est important, cette image, dans la vie de Jésus, par rapport à Jésus. Savez-vous où est né Jésus ? Il est né à Bethléem. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire la maison du pain. Et plus que ça, il est né où ? Dans une mangeoire. Je crois qu'il y a quelque chose à retenir par rapport à ces paroles de Jésus. Savez-vous comment on fait du pain ? On peut réfléchir, hein. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain ? La farine, de l'eau, un petit peu de sel et de la levure, ou du levain. Le levain, c'est quoi ? C'est un peu de pâte qui est de plus vieille de quelques jours et qui va faire gonfler la pâte. Regardons un peu plus près la composition même du pain. D'où nous vient l'eau ? Elle peut nous venir de la terre. Mais l'image que j'aimerais retenir cet après-midi, c'est l'eau qui nous vient du ciel. L'eau ne tombe-t-elle pas du ciel ? Si. D'où vient la farine ? Elle vient de la terre. Parce que de la terre pousse le blé, et du blé produisant des fruits, après avoir broyé les grains, on en récupère de la farine. Et pour faire du pain, on allie l'eau avec la farine et on en fait une pâte. N'est-ce pas là encore une image de qui est Jésus ? Jésus, il est cette pâte, cet alliage entre quelque chose qui vient du ciel et quelque chose qui vient de la terre. Jésus est la parfaite représentation de ce que Dieu a voulu, à savoir envoyer son Fils unique sur la terre, pour qu'il puisse donner sa vie pour nous. Oui, il est le pain du ciel. Il est ce pain qui descend du ciel parce que l'eau vient du ciel, ce mélange se fait. Et en plus, là c'est peut-être pour les chrétiens, mais il y a aussi un petit peu de sel. Ayez du sel en vous-même, disait Jésus. Et chacune des paroles de Jésus, chaque chose qu'il pouvait faire, amenait toujours à réfléchir, amenait toujours à se dire, mais tiens, pourquoi il dit ça? Et la manière dont il le disait, interpellait. Et il avait pour but de nous faire réfléchir. Que cette parole, cet après-midi, que Dieu le permette, contienne suffisamment de sel pour que vous soyez interpellés par cette parole. Donc on fait notre pâte. On a notre sel, notre farine, notre eau, on fait une boule. Et cette boule, qu'est-ce qu'il faut en faire? On la pétrit. Pour faire du pain, on pétrit la pâte. Et Jésus, il a été pétri aussi. Il a été formé, déformé, il a été retourné, il a été... Comme ça, on fait du pain. Et Jésus... à travers tout ce qu'il a vécu sur la terre, a été pétri. Dès son plus jeune âge, il a appris à être méprisé. Dès son plus jeune âge, il a appris à être rejeté des hommes. Et oui, il est né d'une seule femme. Allez dire à ceux qui sont autour de vous que votre père est votre père adoptif et que votre vrai père biologique, il est au ciel. Allez expliquer ça aux autres enfants. Ils vont se dire, mais il lui manque une case, entre guillemets. Jésus, alors forcément, les hommes, qu'est-ce qu'ils retiennent comme solution? Que Jésus est né dans une relation illicite. Alors, imaginez l'enfance de Jésus. Imaginez toutes les insultes et fleuries qu'il devait entendre. Jésus, dès son plus jeune âge, a été pétri. Et il n'a jamais ouvert la bouche. Il n'a jamais... crié au scandale, il ne s'est jamais rebellé, il a toujours reçu ce que les hommes avaient à lui donner, à savoir le rejet, le mépris, les crachats, les insultes, et ça déjà même tout petit. Oui, Jésus a été pétri, il a été modelé. Ce que Jésus a vécu, il a été aussi dans son ministère, et même parmi les siens, même parmi les juifs, les docteurs de la loi s'opposaient à lui. Personne ne l'a reçu. Quand il était petit, c'était pareil. Il n'y avait pas de place, et il s'est retrouvé dans les tables. Personne ne voulait recevoir Jésus. Et cet après-midi, je pose la question, est-ce que cet après-midi, c'est la foi où tu vas le recevoir? Est-ce que c'est la foi où, encore une fois, tu vas faire de même? Tu vas le rejeter, tu vas le mépriser. Tu es là pour entendre ce message, mais qu'est-ce que ce message va faire dans ton cœur? Quelle décision va sortir de l'écoute de ce message? Est-ce que tu vas accepter Jésus ou est-ce que tu vas le rejeter? Jésus a été habitué, quand il était sur la terre, à être rejeté. Il a grandi comme cette faible plante. Jésus a été pétri. Et vous savez quelle est la signature du pain? Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Qu'est-ce qu'on fait? On a notre boule, elle est prête à aller au four. Quel est le dernier geste du boulanger? Le couteau. Et avec le couteau, qu'est-ce qu'il fait? Il le cisaille. Tac, 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 tac. Et après, hop, au four. Imaginez ce beau pain bien rayé, là. Et moi, j'avais en vision le... En vision. J'ai pas eu de vision, mais j'imaginais le dos de Jésus. Lui aussi, il a eu les couteaux, il a eu les marques, comme le pain. Il a eu les coups de fouet. Alors qu'il était sur le chemin du calvaire, il était dans le prétoire, il n'était pas jugé, il était en train d'être condamné, on allait crier à lui pour la crucifixion et Pilate pour soulager sa conscience et peut-être espérer qu'il pourrait s'en tirer à bon compte sans le crucifier. Il l'a fait battre de fouet, peut-être qu'il se dit, peut-être qu'après ça, ils seront contents, mais non. Alors Jésus, il a eu la double ration, il a eu le fouet plus la croix. Les fouets de l'époque, ce n'étaient pas des petites lanières en cuir, hein, il y avait des choses métalliques au bout. Jésus a souffert, et on a chanté ce chant, quand j'ai vu tes mains, mais on aurait pu dire, quand j'ai vu ton dos. Dans quel état est le dos de Jésus? Jésus, il a souffert. Jésus a été pétri. Et jusqu'au dernier moment, il a les mêmes traces qu'une baguette de pain a avant d'aller au four. Il a ces traces-là sur son dos qui montrent à quel point il donnait pour nous, les hommes, tout son amour. Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. Jésus avait même été à Gethsémané dans le pressoir. À Gethsémané aussi, il a vécu des angoisses, des souffrances, de la tristesse, jusqu'à en mourir. Il était là, à genoux, dans le jardin, et il demandait que cette coupe de souffrance s'éloigne de lui. Laquelle coupe il s'agissait ? De la souffrance du moment à Gethsémané, parce que son cœur allait lâcher d'un moment à l'autre, parce qu'il transpirait du sang. C'est l'évangéliste Luc, qui est médecin, qui écrit ça. Et quand on en arrive à transpirer du sang, laissez-moi dire que ça craint. Et Jésus, il était, même à Gethsémané, personne ne l'avait encore frappé, personne ne lui avait rien fait subir, il savait où est-ce qu'il allait, et il a subi des angoisses, une tristesse jusqu'à la mort. Il était pressé à l'intérieur. Et c'était au point qu'il ne le supportait plus. Il a fallu qu'un ange vienne le fortifier. Et pourquoi l'ange l'a fortifié ? Pour qu'il puisse souffrir encore plus. Quand on y réfléchit. L'ange est venu le fortifier pour qu'il puisse souffrir encore plus. Parce que derrière ce qu'il attendait, c'était les coups de fouet, c'était les insultes, les coups tout court, la couronne d'épines posée sur sa tête. Il a été revêtu d'un manteau écarlate. Et à un moment donné, la Bible nous dit que le manteau lui a été ôté. Alors oui, d'accord, quand on lit ça d'un seul coup, ça fait rien. Mais quand on sait qu'il a été fouetté avant, qu'il était flagellé, et que derrière ça collait, et qu'on lui met le manteau, et que d'un seul coup on lui fait clac, imaginez la souffrance qu'il a ressentie au moment où on lui a ôté le manteau. Vous avez déjà tous enlevé des pansements, ça ne fait pas du bien. Jésus, ça recouvrait son dos, et comme son dos était tout collant, ça collait bien. Jésus a souffert. Je décris ces souffrances-là pour qu'on puisse comprendre à quel point il nous a aimés. Il a souffert pour nous. Mais c'est pas terminé. Alors pour le dos, j'avais noté cette référence, Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Voilà tout l'amour de Dieu. Pourquoi il a souffert tout ça ? Pour nous ramener à Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Parce que notre vie ici-bas, dans le mépris total de ce qu'est Dieu, nous éloigne de lui. Et Jésus a tout fait cela pour nous. Mais on n'en a pas fini avec le pain. Une fois qu'il a eu ses petits coups de couteau, il faut le passer au four. Jésus n'est-il pas passé au four ? Vous savez, du temps des Israélites, même encore aujourd'hui, chez les Bédouins, vous savez comment ils cuisent le pain ? Ils font un trou dans la terre et ils font chauffer des pierres, ils font un four dans la terre. Et quand le soir vient, ils ont leur pâte qui est prête et ils le mettent à l'intérieur pour la nuit et ils referment. N'est-ce pas là encore une image de ce que Jésus va souffrir ? La cuisson. Jésus va être dans le tombeau. Il va passer par la mort. Il va aller jusqu'à la croix et sur la croix, il va donner sa vie sur la croix. Alors qu'il est sur la croix, il a encore les forces de dire « pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il sait qu'il va aussi mourir. Un brigand qui est à côté de lui. Et pourtant, Jésus savait que les brigands qui étaient crucifiés, ils n'y étaient pas sans raison. On ne va pas essayer d'imaginer ce qu'il a pu faire, mais pour ceux qui méritaient la croix, c'est qu'ils étaient mauvais de chez mauvais, comme on dit. Et pourtant, l'un des deux regarde Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi ». Il y en a un qui a compris que Jésus, à travers tout ce qu'il a pu dire, même sur la croix, ça dépassait l'entendement. Il était là à côté, il a assisté à la scène, il a vu pendant 3 heures les ténèbres tomber sur la terre. Tout le monde devait dire, mais qu'est-ce qu'il se passe? Imaginez 3 heures d'éclipse. C'est pas rien, 3 heures. Et tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Au point même qu'un centurion romain, qui peut-être même avait participé à ce qui s'est passé pour Jésus avant, a reconnu à la fin, oui, celui-ci était bien le Fils de Dieu. C'était trop. Il y avait trop de choses qui s'étaient passées dans cette journée. Et Jésus va mourir sur la croix. Il va donner sa vie. Je le répète, c'est toujours pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir le salut que Dieu veut nous donner pour être réconciliés avec nous. C'est le geste d'amour que Dieu a fait. Et il va mourir. Heureusement, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité le troisième jour. De la même manière qu'on sort la baguette du four, toute belle, Jésus est ressorti de ce four-là avec un corps glorifié. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'encore aujourd'hui, on peut lui demander sa grâce. Parce qu'il nous entend, il nous écoute. Aujourd'hui, il est au ciel, auprès de Dieu. Et il est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui. Il est toujours prêt à recevoir celui qui vient avec lui, qui vient devant lui, le cœur repentant, prêt à demander pardon. Oui, Seigneur, tu as tellement souffert, et moi, je n'ai toujours fait aucun cas de toi. Seigneur, pardonne-moi. Et c'est parce qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu, que cette prière-là, il peut l'entendre, et il peut exaucer cette prière. Il y a un texte que j'aimerais juste lire en par rapport à la cuisson aussi toujours. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11, nous avons un texte qui nous dit, 1 Corinthiens 3, 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. On passera tous à la cuisson, entre guillemets. Que va-t-il rester de notre vie sur terre, le jour où on passera, entre guillemets, par le feu, par le révélateur de Dieu? Est-ce que nous aurons ces pierres précieuses? Ces pierres précieuses, quelles sont-elles? C'est le salut obtenu par grâce? C'est le Saint-Esprit dans notre cœur? C'est cette assurance d'être sauvé? C'est après, une fois appartenant à Dieu, toutes les choses que nous allons faire parce que nous désirons lui plaire de tout notre cœur et nous sommes appelés à lui donner tout notre amour en retour. C'est pas tout de chanter « Reçois mon amour », mais l'amour, c'est pas de dire « Reçois mon amour », l'amour, c'est de œuvrer pour lui. Et ça, ce sont des pierres précieuses qui s'accumulent parce que c'est pour lui que nous le faisons par amour. Est-ce que ce feu-là va laisser ressortir ces choses? Ou est-ce que le jour où je verrai Dieu, il me dira, je n'ai rien trouvé de bon en toi. Et ce révélateur nous dira qu'on ne pourra pas avoir accès à la présence de Dieu. Parce que de toute manière, de toute notre vie, nous ne l'avons pas cherché. Pourquoi voudrions-nous, pour l'éternité, être auprès de lui? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de Dieu de toute sa vie, pourquoi aurait-il envie d'être auprès de Dieu après la mort? Ça n'a pas de sens. Celui qui sera auprès de Dieu après la mort sera celui qui se sera soucié de Dieu de son vivant. C'est une logique. Il faut être logique avec Dieu. Et Dieu est logique. Celui qui se soucie de son salut, de son avenir, pour l'éternité, ici-bas sur la terre, fait bien. Parce qu'il montre là qu'il a un intérêt pour les choses de Dieu, pour les choses célestes. Et celui qui va même plus loin que de s'y intéresser, mais qui s'approche de celui qui veut nous pardonner, le cœur repentant et sincère, alors celui-là est pardonné. Celui-là peut avoir accès à cette présence éternelle de Dieu dans les cieux. Oui, cette épreuve du feu. Alors là, je ne veux pas déformer les propos de Paul, parce qu'il est question du feu pour ceux qui ont cru, mais de toute manière, pour ceux qui n'auront pas cru, il y a aussi un moment où Dieu jugera le monde. Et il faut être prêt. Notre vie ne nous appartient pas. Elle peut être, nous être ôtée d'un moment à l'autre. Notre vie ne nous appartient pas. Il est grand temps, aujourd'hui, de réaliser tout l'amour de Dieu pour toi, de réaliser à quel point il a souffert, et de donner ton cœur au Seigneur. Regardons, retournons dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et on a là l'attitude de ceux qui ont entendu ce discours. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », celui qui, oui, qui a été brisé, comme l'a dit John, par les souffrances. Il a été brisé comme ce pain qu'on brise avant de le distribuer. Versets 35 à 37. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Les gens qui étaient là autour de lui, ils parlent dans une synagogue. Et ils ne croyaient pas en lui. Pourtant, c'est ces mêmes personnes qui avaient vu la veille Jésus opérer un miracle extraordinaire. Tous les miracles sont extraordinaires, mais quand il s'agit de multiplier de la matière, ça commence à relever de l'excellence quand même. De 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5 000 hommes. Comment était-ce possible? C'est pour ça qu'il parle du pain de vie le lendemain. Parce que ces gens-là étaient attachés à l'exceptionnel. Nous sommes là et nous sommes rassemblés. Nous voudrions voir peut-être Jésus se manifester avec du bruit, avec des choses, des belles expériences qui marquent notre vie. Mais Jésus ne fait pas de bruit. Et il est là cet après-midi. Nous ne sommes pas très nombreux. Et pourtant, Dieu parle. Dieu veut nous sauver, mais il utilise des choses simples. Dieu pourrait se révéler à nous directement. Pourquoi il a choisi d'utiliser des hommes? Parce que Dieu est toujours comme ça. Il cherche des hommes, et nous en faisons partie. Parce que Dieu se révèle, mais il attend de chacun qu'on le cherche. Et c'est alors que nous le cherchons, c'est alors que nous cherchons à découvrir qui il est vraiment, qu'il se révèle à nous. Mais ce n'est pas toujours des choses grandioses. Il n'y a pas toujours une guérison, il n'y a pas toujours quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Des fois, c'est simplement la repentance et le Saint-Esprit qui vient à nous, qui nous procure cette paix indescriptible. C'est déjà suffisant. Ces gens-là étaient assoiffés d'exceptionnel. Ils étaient assoiffés de miracles. Et pour autant, malgré les miracles qu'ils avaient vus, ils ne croyaient pas. Alors, c'est intéressant de se dire que c'est bizarre quand même. Ils avaient des preuves sous les yeux et ils ne croyaient pas. Le salut est gratuit. L'apôtre Paul dit aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il y a un côté gratuit, parce que Jésus s'est complètement donné. Il a donné toute sa personne pour nous. Et ça c'est clair. Et le salut nous est offert. C'est une grâce de Dieu. Cependant, il y a aussi un prix. L'apôtre Pierre écrit quelque chose dans sa première épître au chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. On peut lire à partir du verset 8. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Donc le salut, il a aussi un prix. Obtenir le salut, ça nous coûte. Il est offert, certes, mais il y a une démarche qui peut nous coûter. que de venir jusqu'à Christ pour lui demander pardon. Parce que cela sous-entend que oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il nous faut reconnaître que ce n'est pas par nos œuvres. C'est pas parce que on s'est toujours bien comporté dans notre vie, qu'on a fait ceci, cela, qu'on a toujours eu une vie bien rangée, que nous sommes sauvés. Il nous faut reconnaître notre état de pauvreté. Il nous faut nous reconnaître comme pauvres, parce que c'est alors que nous deviendrons riches. C'est alors que Dieu pourra nous donner le salut. C'est parce que je me serai reconnu comme ayant besoin de la grâce de Dieu. C'est parce que moi-même, je me serai mis dans la même situation qu'un mendiant où je dis « Seigneur, sauve-moi, donne-moi du pain. Donne-moi de ce pain qui me donne la vie, parce que je vais mourir si je ne l'ai pas. » Cette attitude nous coûte, parce qu'il s'agit de dire à Dieu que nous acceptons le fait que nous soyons des pécheurs. Jésus, toujours dans son discours, au chapitre 6, on va y revenir, au chapitre 6, et si je lis au verset 27, c'est Jésus qui parle. Et il dit, « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Travaillez. Le salut ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts ou en disant « je te demande pardon » et puis c'est fini. Non, c'est pas de dire « je te demande pardon » qu'on obtient le pardon. Mais ça relève d'une attitude qui vient, c'est cette demande, ce cri vient du plus profond de notre être. Et quand on demande pardon d'un cœur sincère, avec une bonne conscience, on reconnaît que ce cri-là est le reflet exact de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que j'ai déjà demandé pardon à Dieu, pour de vrai ? Ou est-ce que je me suis juste levé à un appel, je me suis approché, j'ai demandé pardon, le pasteur a prié pour moi, je suis reparti, comme j'étais rentré d'ailleurs ? Parce qu'à l'intérieur, il ne s'était rien passé. La vraie demande de pardon, c'est celle qui vient du cœur. C'est celle qui, par le Saint-Esprit, ce besoin d'être pardonné, ce besoin d'être nourri, d'avoir ce pain du ciel, c'est pareil, il nous est révélé par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'état de notre cœur. Comment Dieu le voit ? Et celui qui cherche Dieu de tout son cœur, il va pouvoir demander à Dieu, « Révèle-moi, montre-moi comment tu me vois. » Et là, réalisant son péché, réalisant son état misérable, il demande pardon à Dieu, parce que Dieu lui a fait connaître comment il était perçu au ciel. Et là, le pardon s'opère. Et là, il y a quelque chose qui se passe, parce que la demande de pardon, elle vient du cœur. Elle vient de quelque chose qui vient des profondeurs de notre être. Et ça, Dieu, ça lui plaît de voir que nos paroles sont en accord avec notre cœur. Ça demande un effort, ça demande de le chercher, ça demande de demander à Dieu qu'il se révèle, ça demande de jouer carte sur table avec Dieu, de faire tomber le masque. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu, moi aussi. Seigneur, je m'approche de toi, je te demande ta grâce, parce que nous sommes tous misérables devant Dieu. Jésus a tellement souffert, il a été brisé pour nous, c'est toute la preuve de son amour pour nous. Comment nous, on va réagir à ce que Jésus a fait ? Croire, c'est quoi ? C'est pas adhérer intellectuellement à ce discours. Croire, c'est accepter dans un premier temps que ce qui vous est dit, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ensuite, croire, c'est obéir. Comment prouver à quelqu'un que je crois ce qu'il me dit si quand il me dit quelque chose, je n'écoute pas ? Je ne pourrai jamais lui prouver que j'ai cru en sa parole. La preuve du fait que je crois en ce qu'il m'a dit sera vue par comment mon comportement. Est-ce que j'ai écouté le conseil ou pas ? Si je n'ai pas écouté le conseil, qui va dire que j'ai cru à la parole ? Quelle était la prédication de Jésus ? Parce que les Juifs lui demandaient « Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Je me demande si ce n'est même pas dans le même passage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ce n'est pas de faire des choses, ce n'est pas de faire des œuvres. Le salut ne s'obtient pas par nos bonnes œuvres. Et d'ailleurs, on ne va pas en enfer à cause de nos mauvaises œuvres ou nos bonnes œuvres, d'ailleurs. Ce n'est pas par nos œuvres que non plus nous allons en enfer. Nous allons en enfer à cause de notre nature pécheresse. C'est à cause du péché qui est en nous que nous allons en enfer. Ce n'est pas parce qu'on va faire du bien ou du mal. La preuve, c'est que le salut est universel. Le brigand sur la croix a été sauvé malgré tout ce qu'il avait fait de mal. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais seulement la foi en Jésus-Christ nous sauve. Jésus dit qu'il nous faut croire dans le fait qu'il était envoyé de Dieu. Donc il est descendu du ciel, le pain descendu du ciel, et que par sa mort, nous avons la vie. Par sa mort, par ses souffrances, nous avons la vie. Et parce qu'il est ressuscité le troisième jour, il nous écoute et qu'il est prêt à nous accueillir. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Jésus disait à ceux qui l'entouraient, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que je vous annonce cet après-midi. Tout ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer que Dieu a tellement aimé les hommes. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions encore séparés de lui, nous étions encore dans notre iniquité, nous étions encore enfouis dans la boue du péché, que Jésus est venu pour mourir pour nous. C'est tout l'amour de Dieu, c'est la preuve de son amour. Alors que nous sommes recueillis, j'aimerais que nous réfléchissions. Alors que la Bible dit, Jésus te dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui te le dit, repens-toi et crois à la bonne nouvelle de Dieu. Que dans ton cœur il y ait cette attitude de repentance, que dans ton cœur tu puisses recevoir ce que Dieu veut te donner. Et cette démarche dans ton cœur de le chercher de tout ton cœur. La repentance, c'est lui demander la révélation et c'est lui demander pardon. Cet après-midi, qui veut saisir par la foi la grâce de Dieu? Il y a un verset qui dit dans le livre des Proverbes, je vais juste le lire. Il est dit qu'il est question du paresseux. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Je le relis. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Vous avez peut-être plongé la main dans le plat cet après-midi, vous êtes là avec nous, vous entendez le message de Dieu, mais vous trouvez peut-être pénible de la ramener à votre bouche parce que cela implique qu'il faut vous repentir de vos péchés. Ne restez pas dans cette attitude et travaillez à votre salut. Le salut ne s'obtiendra pas si on reste les bras croisés. Est-ce que tu acceptes, oui ou non, cette parole de vie? Est-ce que tu acceptes le salut que Dieu veut te donner cet après-midi? Oui, il y a un prix à payer, Jésus a payé sa part, mais ce qui te reste à faire, c'est de t'avancer, t'approcher de Dieu. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies vécu, le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Alors que nous allons reprendre un dernier chant, pendant ce chant, si vous voulez que je prie pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans cette démarche, que le Seigneur vous aide à faire le point avec lui, que le Seigneur vous aide à décider une fois pour toutes de vous appliquer à le chercher pour pouvoir vous approcher mieux de lui, pour pouvoir apprendre à le connaître plus. Alors je vais prier pour vous. N'hésitez pas à vous avancer sur le devant et le Seigneur vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse.